La gloire de Jésus. Jésus nous parle de sa gloire en Jean 16 notamment, et à travers la gloire de Jésus, on va aussi parler de la gloire de Dieu. En Jean 16, versets 12 à 15, il y a un enseignement fondamental. Jésus commence par « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Première partie, deuxième partie. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Deuxième partie. Car il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et la troisième partie, c'est lui qui me glorifiera, donc la gloire de Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, tout ce que le Père a est à moi. Et on finit par la gloire de Dieu à travers Jésus. Donc on va voir ces trois parties. Tellement cet enseignement est fondamental. Jésus commence par « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ça veut dire que Jésus, en fait, explique qu'une partie de son enseignement n'est pas dans les évangiles, mais se fera par l'Esprit. C'est exactement ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que le plus grand auteur en volume du Nouveau Testament est en fait Paul. Pourquoi ? Parce que Paul n'a pas connu Jésus, mais a été touché par l'Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est bien par l'Esprit que la suite de l'enseignement de Jésus se fera, à travers, effectivement, le Nouveau Testament, c'est-à-dire Paul, la saine doctrine, Paul, Pierre, Jacques et Jean, et y compris en Apocalypse. Pour ça que Paul nous dit en 1 Corinthiens 2,4 « Et ma parole et ma prédication n'ont pas consisté en un discours persuasif de la sagesse, mais dans une démonstration d'esprit, de puissance. » Et bien, par l'esprit que Paul enseigne selon la volonté de Jésus, et c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble du Nouveau Testament. C'est pourquoi tout ce que nous faisons en termes de formation, c'est à la fois l'évangile de Jésus, mais également l'ensemble du Nouveau Testament. C'est l'ensemble de la saine doctrine est constitué de tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament. La deuxième partie, l'esprit de vérité. Cette affirmation, l'esprit, c'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un temps de mensonge, c'est dit en 2 Timothée 3,4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voilà, encore la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, Jésus affirme que le premier rôle de l'esprit, c'est la vérité. Peu importe les manifestations d'esprit, si ça n'est pas dans la vérité, par exemple parler en langue, c'est tout à fait secondaire par rapport à l'esprit de vérité. Pourquoi ? Parce que le parler en langue tel qu'il est fait en Église est en fait fait à l'encontre des enseignements de Paul, qui nous dit bien « je préfère une parole intelligible faite par mon intelligence que 10 000 paroles en langue », une parole que tout le monde peut comprendre, en fait, dans ce sens-là, bien sûr que c'est inspiré également. Donc, si la doctrine enseignée n'est pas exactement la saine doctrine, peu importe les manifestations, d'abord, l'esprit est un esprit de vérité. Et c'est bien ce qu'on voit actuellement. Sur YouTube, vous pouvez écouter des milliers d'enseignements qui finissent, en fait, à peu près tous, par s'écarter de la saine doctrine. C'est ce que nous explique Paul à travers Timothée. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, la première caractéristique de l'esprit, ce que donne l'esprit de Dieu, c'est la vérité. C'est-à-dire, ça permet de reconnaître la saine doctrine dans toutes les variantes qui sont enseignées. Si quelqu'un ne reconnaît pas la saine doctrine dans toutes les variantes qui sont enseignées, en fait, il n'y a pas vraiment d'œuvre de l'esprit en lui. Et on l'a dans l'église de disciples, on a des dizaines de milliers de personnes qui utilisent nos formations, et il faut dire les choses, un grand nombre de pasteurs également, mais seul un tout petit nombre ira jusqu'au bout. Et encore un plus petit nombre va garder la saine doctrine et la transmettre et porter du fruit. L'esprit de vérité est la base de l'œuvre de Jésus. En fait, la sélection se fait tout seul, c'est pour ça qu'on ouvre à tout le monde, parce que tout le monde peut essayer de se former, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais Il faut être conduit par l'esprit de vérité pour en fait y arriver. Et notre rôle, c'est d'aider, bien sûr, à développer par rapport aux fausses doctrines, donc à recentrer sur l'esprit de vérité, ce qui porte de fruits. En fait, on développe pour qu'il y ait des fruits, mais l'esprit de vérité doit vous pousser à la base. Et c'est ça, la première manifestation de l'esprit. On va prendre des exemples concrets. Le fait d'être rempli d'esprit dans la doctrine catholique, par exemple, ben, selon la doctrine, c'est la prière du prêtre le jour de la confirmation qui vous donne l'esprit, c'est le sacrement de réconciliation qui vous donne l'esprit, et c'est la Sainte Cène qui vous remplit l'esprit. Donc c'est les sacrements. L'Esprit Saint, c'est les sacrements exercés par le prêtre. Or, dans la Sainte Cène, manger le pain de vie physiquement, c'est complètement stérile si en fait on ne suit pas les enseignements de Jésus au quotidien, c'est pas magique. Selon justement la sainte doctrine, c'est en fait la seule façon d'être conduit par l'esprit. En Jean 6, 35, Jésus leur dit: c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est par ce qu'il est, par son exemple, par son modèle, par son enseignement que nous sommes remplis d'esprit. C'est le seul vrai enseignement qu'on trouve dans le Nouveau Testament sur le fait d'être rempli d'esprit. Ça ne dépend pas de notre façon de prier, de notre façon de faire des louanges, de notre façon, ça dépend de l'imitation du Christ. Même chose, quand il enseigne sur la prière en disant: donne-nous ce jour notre pain quotidien, c'est tous les jours, on a besoin du pain, mais pas réellement du pain physique, puisqu'il est dit un peu plus loin que ce n'est pas ce que nous demandons en fait, parce que les païens demandent le pain, les vêtements, mais ce n'est pas ce que nous demandons. Nous, en fait, nous cherchons le royaume de Dieu, et notre pain quotidien, c'est cet enseignement que nous donne Jésus, c'est cette conduite par l'esprit. C'est la même chose en milieu protestant, avec des variantes. Être rempli, conduit par l'esprit, vous avez 10 000 variantes possibles. Et c'est toujours pas la saine doctrine, c'est-à-dire l'imitation de Jésus dans le sens de suivre l'ensemble de ses enseignements, ce qui est l'objet de toutes les paroles de Jésus, par exemple, de ce que nous faisons dans l'Église de disciples. Pourquoi c'est tout autant mal compris? Parce qu'il n'y a pas le fondamental, il n'y a pas l'esprit de vérité, donc il y a des centaines de doctrines différentes. C'est indiqué très clairement par Jésus comment être rempli et conduit par l'Esprit. Jean 15, versets 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une puissance de l'Esprit exceptionnelle. Et ça continue: en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. Ça, c'est la base que vous retrouvez partout dans les églises de disciples. Donc, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà la puissance de l'esprit. C'est quand même extraordinaire, cette puissance-là, cette autorité spirituelle-là. Et comment on fait? Jésus nous le dit. Si vous demeurez en moi, donc selon l'esprit, et que mes paroles demeurent en vous. Voilà le seul secret qu'il y a à connaître pour être rempli et conduit par l'esprit. Et on a un exemple très clair dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec Élie. Quand Élie demande ce qu'il veut et qu'il lui est accordé, on l'a en 1 Roi 17, souvenez-vous, il cria à l'Éternel parce que l'enfant de la femme qu'il a accueillie meurt, et il cria à l'Éternel: Éternel mon Dieu, fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il vécut. Mais il faut bien voir l'ensemble du contexte, c'est parce que Élie suit la volonté de Dieu. Et on voit un peu plus en avant, on a Roi 17, versets 6 à 9, qu'il est corbeau qui lui apporte du pain et de la viande. Et le soir, le matin et le soir, et au bout de quelque temps, le torrent dans lequel il est sèche, et les paroles de l'Éternel furent adressées: Lève-toi et va-t'en à Sarepta, et voilà, j'ai chargé une femme veuve de te nourrir. Donc, Élie suit le plan de Dieu, qui n'a rien à voir avec une logique humaine. C'est fou, cette histoire de corbeau, de torrent qui s'assèche, Dieu l'emmène vers une femme. Rien n'est selon une logique humaine, et c'est ça qui montre la puissance de Dieu, le fait qu'Élie était conduit par l'Esprit, qui est effectivement la gloire de Dieu. Et là, il peut demander, effectivement, parce qu'à la base, c'est l'obéissance. Donc, quand dans l'enseignement de Jean 16, versets 12 à 15, l'Esprit glorifie Jésus, parce que Jésus nous dit, c'est lui qui me glorifiera. Pourquoi? Parce que Jésus glorifie Dieu en faisant sa volonté. comme il est, si on veut. Et en étant à son image, beaucoup plus donc qu'il est. Et Jésus ne fait rien comme les hommes le font. C'est pour ça qu'en Matthieu 5, 16, quand il nous est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, voilà la gloire de Dieu. C'est-à-dire pas comme les hommes le font, de façon extraordinaire. Pas en faisant, par exemple, la charité telle que les athées le font. Non, non, on doit voir Dieu à travers vous. Parce qu'on voit à travers vous Jésus, donc on voit Dieu. Voilà la gloire de Dieu et la gloire de Jésus. Parce que dans le sens exact du Nouveau Testament, glorifié, c'est-à-dire doxasso en grec, c'est dans le sens on attribue la cause et on fait la volonté d'eux. C'est un sens différent en fait de glorifier tel qu'on l'entend au jour d'aujourd'hui. Exemple très simple, en Marc 2, versets 11 à 12, quand Jésus dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », et donc il se lève et ayant pris son lit, il sortit en présence de tous, le paralytique, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, vous voyez, disant « Jamais nous n'avons vu chose pareille ». Et c'est voilà pourquoi l'Esprit glorifie Jésus. Hein, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, tout ce que le Père est à moi. Il y a une autre articulation autour de la glorification, doxasso, en Jean 13, avec l'épisode avec Judas, Jean 13, 31. Donc, quand Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même et le glorifiera bientôt. » Donc, cette affirmation vient juste après le passage en Jean 13, versets 26 à 27, et il trempe le morceau, il le donne à Judas, et après le morceau, alors Satan entra en lui, Jésus donc dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, la gloire de Dieu, la gloire du Fils, vient en fait juste après la trahison de Judas. C'est-à-dire que, pourquoi Jésus nous explique cette glorification? C'est parce qu'il suit le plan de Dieu. Et on voit que la gloire de Dieu est complètement déconnectée, en fait, d'une réalité humaine, puisque Jésus annonce qu'il va être glorifié en agonisant sur une croix. Donc, humainement parlant, c'est une déchéance, et en fait, c'est la gloire de Dieu à travers lui, parce qu'il vaincra le monde, il vaincra les autorités, il nous ouvrira le ciel, etc., etc. Donc, voilà la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que les yeux humains peuvent voir, ou une logique humaine. Évidemment, tout ça est très puissant, et tout de suite, la tradition humaine, inspiré par l'esprit du monde, a changé le sens biblique. Donc, rendre gloire à Dieu, c'est faire la volonté en suivant le modèle de Jésus, quitte à l'imitation de Dieu. Et les hommes ont fait autre chose. Les catholiques ont fait des cathédrales pour rendre gloire à Dieu, par exemple, comme les pyramides, hein, c'est pareil, ça ne vient pas, ça n'est pas extraordinaire et surnaturel, c'est juste les hommes qui rendent gloire au Dieu, Dieu avec un X, là, du coup. Exactement comme les Égyptiens et les pyramides, ou les Aztèques avec leur bâtiment. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu dans le sens image de ce que nous montre Jésus. Les protestants ont fait pareil, avec une façon différente, avec les fameux chants de louange. J'ai pris un exemple de chant de louange sur la gloire de Dieu, J'aime 303, voilà ce qu'il est dit. « Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Rien à voir avec la gloire de Dieu à l'imitation de Jésus. C'est tout à fait autre chose, vous voyez, c'est juste un rituel. Répéter un chant de louange, tout le monde peut le faire. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, et de porter du fruit en suivant l'enseignement de Jésus par l'Esprit, ce qui est la vraie gloire de Dieu, les fruits. C'est pour ça que quand on voit les fruits de l'Esprit, bien sûr, qui dépassent complètement ce qu'on peut faire humainement parlant, comme l'enseignement de la bonne terre qui donne des graines de façon surnaturelle. C'est pour ça que même Jean 3,16 a été évidemment détourné du sens initial. Quand Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », mais donné comme quoi? Comme modèle et comme sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire en lui, bien entendu, faire l'ensemble de ses enseignements. Pas dire juste « Ah oui, je crois en Jésus », ce qui en soi ne veut rien dire. Et ça a été changé dans les milieux traditionnels en, vous voyez, Dieu aime tout le monde, sans distinction. Ça n'a rien à voir. La vraie gloire de Dieu s'exprime à travers Jésus. Et Jésus parle de la gloire de Dieu, y compris sur la croix, la glorification, c'est-à-dire faire le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu dépasse toute raison humaine.